Bonjour à tous. Bienvenue pour étudier le français. Dans ce programme, on parle des études, du mariage et de l'esprit d'entreprise. Nous commençons par le thème de l'éducation dont nous avons déjà parlé. Écoutez ce que M. Harvey dit à propos du système scolaire français et répondez aux questions suivantes. Pourquoi a-t-on dû créer de nouveaux baccalauréats? Qui peut entrer à l'université en France? Que dit-on des grandes écoles?
Après, bon, donc une scolarisation importante obligatoire jusqu'à 16 ans, et de plus en plus de jeunes qui veulent tous aller au lycée, puisque l'objectif dans les années 90, c'était de dire, voilà, il fallait 80% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat. Amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, c'est un pari difficile, étant donné que les différences restent grandes entre les milieux, entre les établissements. Ça a permis de créer de nouveaux baccalauréats. Alors, il y a bien sûr les baccalauréats généraux. Et puis, à côté de ça, il y a eu le développement des baccalauréats technologiques. Et maintenant, ce qu'on appelle les baccalauréats professionnels. Alors, en France, c'est un système un peu différent de la Finlande, puisque le baccalauréat permet l'accès à l'université. Je sais tout à fait qu'en Finlande, ça c'est basé sur un autre critère, puisque les élèves, les étudiants doivent choisir certaines matières et leurs notes donc sont prises en compte par rapport à la préparation à l'entrée à l'université. En France, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'université, bon, à laquelle on a accès avec le baccalauréat. Mais parallèlement, il y a aussi ce qu'on appelle le système des grandes écoles. Ce sont des établissements dans lesquels on entre par la voie du concours. La voie du concours, ça veut dire peu d'étudiants entrent dans ces grandes écoles, mais ils sont sûrs d'en sortir diplômés. Du côté des universités, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants donc inscrits en première, seconde année, mais un grand nombre d'abandons au bout de 2 ans. Ça pose donc des questions d'orientation. C'est un système qui a voulu répondre au pari de l'éducation de masse avec, à tous les niveaux d'enseignement, donc la nécessité de prendre en compte donc cette diversité, donc de développer des structures de soutien, de réorientation, de complément pour arriver donc à amener le plus grand nombre de jeunes à des diplômes.
Les nouveaux baccalauréats ont été créés pour que presque toute une classe d'âge puisse passer le baccalauréat. Et comme vous l'avez entendu, ceux qui l'ont passé peuvent entrer à l'université où il n'y a pas d'examen d'entrée. Par contre, il faut toujours passer un concours pour entrer dans une grande école. Normalement, dans les grandes écoles, les étudiants poursuivent leurs études jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur diplôme, alors que beaucoup d'étudiants dans les universités les arrêtent.
En Finlande, il y a eu une réforme dans les lycées, permettant une certaine liberté dans les programmes. Mais en France, le ministère de l'Éducation nationale définit les programmes par matière pour tout le pays.
À la différence de ce qui se passe en Finlande, je parlerai d'un dernier point. J'ai constaté qu'il y avait une réforme donc dans les lycées avec un enseignement modulaire. Et il y a, à mon point de vue, une grande autonomie des établissements et des élèves, en fait, dans un système comme celui qui est pratiqué en Finlande. Alors qu'en France, donc, on constate qu'il y a un système beaucoup plus généralement partagé, disons. Il s'agit des mêmes programmes, en principe, dans tous les établissements, sur l'ensemble de la République. Et actuellement, on dit qu'il faudrait peut-être davantage d'autonomie aux établissements en France, davantage de transversalité entre les savoirs, moins de cloisonnement de disciplines. Alors on essaie de faire bouger un peu ce système un peu trop coincé, mais je ne sais pas si on va aller vers la solution que propose la Finlande. C'est ce qu'il faudra observer dans les années qui vont venir.
Maintenant, écoutons Madame Anttila et Marc Perrault qui nous présentent comment se passe le baccalauréat.
Bonjour Marc.
Bonjour Claude.
Tu enseignais l'année dernière dans un lycée en France.
Pourrais-tu expliquer comment se passent les épreuves du baccalauréat en répondant à mes questions?
Oui, bien sûr.
Y a-t-il toujours en première, c'est-à-dire un an avant le bac, une épreuve anticipée de français?
Il y a en fin de première une épreuve écrite et orale pour toutes les séries du baccalauréat.
En classe terminale, combien de matières doit-on passer au minimum et quel serait le maximum?
Le baccalauréat général est constitué de trois séries différentes. Une série économique et sociale, une littéraire et une scientifique. Chaque série a une épreuve obligatoire dans la spécialité choisie, mais aussi en mathématiques, en philosophie, en histoire-géographie, en langue et en sport.
Je sais que pour chaque épreuve, il y a un coefficient, ce qui rend des matières plus importantes que d'autres. Peux-tu donner des exemples et dire aussi combien de temps dure chaque épreuve?
Prenons par exemple la série scientifique. L'épreuve de mathématiques a un coefficient 5 et dure 4 heures. Celle de physique a un coefficient 5 et dure 3 heures. Celle de biologie a un coefficient 2 et dure 3 heures. Celle d'histoire et géographie a un coefficient 2 et dure 3h30. Celle de philosophie a un coefficient 2 et dure 4 heures. Celle de français a un coefficient 2 et dure 4 heures aussi. Celle de langue vivante étrangère est une épreuve orale avec un coefficient 3, celle de sport a un coefficient 2.
Les langues vivantes, donc, et d'autres matières sont passées à l'écrit et à l'oral devant un professeur. Quand j'ai moi-même passé mon bac, il y a très longtemps, j'avais été impressionné par l'anonymat des copies, les locaux qui n'étaient pas ceux de mon propre lycée, les professeurs que je ne connaissais pas. Est-ce toujours la même chose?
Oui.
Je me souviens aussi d'un cas de tricherie au bac qui a fait que le candidat pris la main dans le sac, si je puis dire, n'a jamais pu repasser le bac et par conséquent n'a pas pu poursuivre des études universitaires. Est-on toujours aussi sévère?
Tout candidat surpris à tricher se voit interdit de passer tout type de concours et examens nationaux pendant 7 ans.
Les sujets ne sont pas nationaux. Chaque académie prépare ses sujets dans le plus grand secret et les garde bien jusqu'au jour de l'examen. Par contre, le diplôme est un diplôme national signé par le ministre de l'Éducation nationale. On reprend des questions du programme imposé à chaque établissement scolaire et comme ce programme est trop vaste, on essaie de prévoir quelles sont les questions qui risquent d'être posées le jour de l'examen. Pour être admis, il faut avoir une moyenne de notes de 10 sur 20. Avec 8 sur 20, on peut se rattraper avec un oral, mais la moyenne finale doit être de 10 sur 20, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Quelques semaines après avoir passé toutes les épreuves, on va découvrir sur la porte de son lycée, où on regarde dans le journal, les résultats. Entre 60 et 70% auront le sourire, et les autres devront se remettre à étudier. On recevra, sans cérémonie, un avis de réussite qui, beaucoup plus tard, sera suivi du diplôme cartonné qui ouvre les portes de l'université.
Comme dans beaucoup de pays d'Europe, le public scolaire se féminise en France. Les études durent longtemps et le mariage est de plus en plus tardif. Comme dans le système scolaire, il y a des différences dans les cérémonies de mariage entre la France et la Finlande. Notez bien qu'en France, le mariage à la mairie est obligatoire. En Normandie, le mariage se déroule de la manière suivante.
Le mariage en France, souvent maintenant, se déroule l'après-midi, plutôt qu'un mariage pendant toute la journée, comme c'était autrefois. Le mariage est souvent en deux étapes, c'est-à-dire que le couple de mariés doit obligatoirement passer par la mairie. Et ensuite, il y a un mariage religieux à l'église ou à la cathédrale. Le mariage à la mairie se déroule en présence de témoins. Et aussitôt après, le mariage à l'église, beaucoup de personnes viennent assister au mariage. Et à l'issue du mariage, à l'église, tous les invités sont conviés à un vin d'honneur qui se déroule dans une salle en proximité de l'église. Les personnes ont ainsi l'occasion de discuter avec la famille des mariés et aussi le couple et peuvent apporter leurs cadeaux. Ensuite, après le vin d'honneur, il y a une promenade d'organiser, souvent dans un jardin public ou dans un endroit à la campagne où il y a de beaux sites, un château. Et après, vers 7-8 heures, il y a une réception d'organiser, un repas d'offert pour tous les invités. Et après le repas, il y a un orchestre, des animations. Et le mariage se termine que vers 5-6 heures.
Comment est-ce qu'on est habillé?
Alors encore une fois, tout dépend du style du mariage. Mais en règle générale, la mariée porte une robe ou un tailleur blanc ou écru. Souvent c'est un voile, mais ça peut aussi être un chapeau. Quant au marié, c'est un complet. Les couleurs peuvent aller du noir au gris en passant par le vert. Très rarement, le marié porte un chapeau. Quant aux invités, les femmes portent une robe ou un tailleur, souvent aussi un chapeau. Et les hommes ne portent pas de chapeau, mais portent un complet avec une cravate.
Le mariage est une occasion importante où tout le monde veut s'habiller élégamment. C'est aussi une question d'argent. La plupart achètent des vêtements prêts à porter. Une petite minorité peut porter des vêtements de haute couture. Madame Garbet, directrice de la maison Chanel à Nice, explique quelle est la position de la haute couture aujourd'hui.
Alors évidemment, la haute couture a une clientèle beaucoup plus restreinte qu'elle n'avait auparavant. C'est une élite qui est de plus en plus réduite, mais ça reste encore une image très très forte. C'est la haute couture qui donne le ton. Toute la mode prête à porter, d'une manière générale, dépend de la haute couture. La haute couture qui donne l'image. Chaque saison, quand il y a un défilé haute couture, on connaît à peu près l'orientation du styliste après un défilé de haute couture.
Alors, c'était la directrice de la maison Chanel. Et maintenant, l'opinion de la représentante de la maison Yves Saint-Laurent à Nice.
Comment voyez-vous le futur de la haute couture?
C'est une question difficile. Je sais que c'est une... ce sont des collections qui coûtent très très cher et qu'il y a une clientèle limitée. Je pense en même temps que c'est très prestigieux et que on devrait quand même continuer. Quelques maisons devraient continuer, malgré les coûts importants que ça engendre. Moi, personnellement, je suis pour les maisons haute couture. Mais bien sûr, la conjoncture économique dans le futur nous dira si ça sera possible ou pas.
Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des femmes qui sont prêtes à payer des fortunes pour ces vêtements?
Et le type de vêtement que Yves Saint Laurent a créé, qui est un vêtement qui est intemporel, qui dure. Actuellement, dans la création, il y a une tendance au déguisement, alors que Yves Saint Laurent a toujours gardé le même style en diminuant les largeurs des épaules et des petits détails pour moderniser le look, mais il est resté fidèle à sa coupe. Et je pense que c'est pour cela qu'actuellement, nous avons considérablement monté notre chiffre d'affaires. Et je pense que dans l'avenir, il sera encore plus apprécié, puisque les tendances sont tellement variées actuellement. La femme qui travaille a un budget vestimentaire et elle veut aussi que le vêtement dure quelque temps, bien entendu. Donc, dans la collection Rive Gauche, les tissus sont d'excellente qualité Et les vestes sont souvent doublées en soie, les boutons sont très très beaux et les finitions en partie faites main. D'où la différence de prix entre les deux collections. La rive gauche coûte à peu près 30% plus cher que Variation.
Lacoste représente des vêtements de qualité et de réputation mondiale, mais dont les prix sont plus accessibles que ceux des maisons de haute couture.
Monsieur, vous travaillez dans une boutique qui vend des vêtements Lacoste. Qu'est-ce que la marque Lacoste représente aux touristes ?
Aux touristes, je crois que c'est une image internationale. C'est un grade de qualité et un classicisme qui traverse le monde entier.
Et pour les Français, Lacoste ?
Déjà, c'est une marque française qui a 65 ans et qui est représentée par un ancien tennisman qui a gagné la Coupe Davis, qui s'appelait René Lacoste. Mm-hmm. Et c'est une marque qui traverse les années parce qu'il n'y a pas vraiment de phénomène de mode. Et au niveau qualité, je veux dire, ça reste toujours la même chose.
Et le prix, c'est assez élevé ?
Moyenne gamme, on va dire.
Vous savez faire de la publicité.
Non, il y a des premiers prix en chemise, il y a des premiers prix en polo. Au niveau prix, on ratisse très large.
Une tenue de fête n'est pas parfaite sans parfum. Presque toutes les maisons de haute couture fabriquent leur propre parfum. La petite ville de Grasse, dans le Midi, c'est-à-dire dans le sud de la France, produit la matière première de ses parfums. Vous allez entendre comment la guide explique ce qu'on fait dans l'usine de Fragonard. Prenez des notes et faites un résumé en 100 mots.
Alors, vous êtes ici dans l'usine de Fragonard, qui est une des plus anciennes parfumeries de Grasse, qui a été créée en 1782 et ouverte au public à partir de 1930. Alors, à Grasse, nous cultivons beaucoup de fleurs, comme la rose, le jasmin, la violette, le mimosa, la lavande, qui sont des fleurs les plus chères et les plus recherchées pour la parfumerie. Et nous faisons venir du monde entier des essences déjà prêtes à être utilisées, que nous, malgré tout, nous purifions. Alors, nous avons différents parfums, des parfums qui sont plus ou moins sucrés, qui sont à base de cannelle ou de vanille, comme par exemple le poison de Dior, qui est un parfum très sucré à base de vanille. Nous avons aussi des parfums très épicés à base de poivre, de piment, de clous de girofle, par exemple comme Opium d'Yves Saint Laurent ou Chalimard de Guerlain, qui sont des parfums très très épicés. Et nous avons aussi des parfums très très frais et très fleuris à base de fleurs et fruités également, comme par exemple Anaïs de Cacharel ou Amarige de Givenchy ou Paris d'Yves Saint Laurent, qui sont des parfums très très fleuris. Mais si Grasse s'appelle la capitale mondiale du parfum, c'est tout simplement parce que c'est Grasse qui fournit au monde entier les essences et les bases aux grands couturiers. Disons qu'eux, malgré tout, ajoutent quelque chose. Chez nous, ils achètent que les bases. Alors, le monsieur qui crée le parfum s'appelle Le Nez. Alors Le Nez, au départ, c'est un ingénieur chimiste. Et puis après, petit à petit, il arrive à reconnaître les odeurs. Et ça lui permet de créer le parfum à base de 50 à 300 essences différentes. Par contre, Le Nez ne peut pas travailler plus que 3-4 heures par jour, car c'est un métier qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'odorat. Par contre, il ne peut pas fumer. Et la majorité des nez que nous avons en France, ce sont des hommes. Alors, pour faire un parfum, évidemment, il faut faire la distillation des fleurs. Et nous faisons la distillation des fleurs dans des grands alambics en cuivre, qui s'appellent la distillation à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que les fleurs sont distillées à chaud avec de l'eau et s'échauffées à la vapeur. En chauffant, donc, la vapeur entraîne l'essence des fleurs. Et évidemment, pour obtenir un kilo d'essence, il faut, par exemple, 600 kilos de lavande pour avoir un kilo d'essence. Et une tonne de rose pour avoir un kilo d'essence de rose. Alors voilà pourquoi les parfums sont très chers. Hein. Là, maintenant, on s'en rend compte. Par contre, le jasmin, qui est une fleur très fragile, se distille à froid sur de la graisse d'animaux. Par exemple, sur une plaque de verre, on étale de la graisse de bœuf et de porc mélangée. Et sur la graisse, après, on met des fleurs de jasmin. Mais ces fleurs, il faut les changer tous les matins, pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, la graisse, elle est imprégnée de parfums. Cette graisse, après, nous la lavons à l'alcool. Et c'est l'alcool qui absorbe le parfum des fleurs. Voilà comment on obtient l'essence de jasmin, qui est une essence qui coûte très très cher. Hein? Oui. Et d'ailleurs, l'odeur du jasmin, on la retrouve dans tous les parfums les plus renommés, les plus qu'on trouve dans les grands magasins. Mm-hmm. Dans tous les parfums, vous retrouvez pratiquement le jasmin. Mm-hmm. Alors Fragonard, c'est une usine où nous travaillons encore beaucoup manuellement, c'est-à-dire beaucoup de travail se fait à la main. Le remplissage des flacons, l'étiquetage, l'emballage. Ensuite, nous avons l'atelier de la savonnerie, où nous faisons les savons aussi. Et le savon, la base du savon, c'est du savon de Marseille que nous avons. Donc c'est le plus naturel, car la base du savon de Marseille, c'est de la graisse animale. Et cette graisse animale, après, elle est saponifiée avec de la lanoline et parfumée. Alors nous avons tous les parfums de fleurs en savon, parfum à la lavande, à la rose, au jasmin, au mimosa. Et nous avons aussi 2 spécialités de savon, c'est-à-dire les savons à l'huile d'olive, qui sont très très bons pour les peaux sèches, et les savons au miel, pour les peaux délicates. Alors maintenant, ce que je peux vous expliquer encore, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un parfum, une eau de toilette et une eau de cologne. Parce que la différence est très grande et c'est ce qui explique aussi la différence de prix. Alors le parfum se compose de 20% d'essence et le reste c'est de l'alcool pur. L'eau de toilette a 10% d'essence, mais c'est moitié alcool et moitié eau distillée. Ce n'est pas de l'alcool pur. Et l'eau de cologne, qui est très très légère, elle n'a que 3% d'essence. Moitié alcool, moitié distillée également. Oui. D'accord?
D'accord.
Donc
oui.
Le parfum, c'est 20%, l'eau de toilette 10 et l'eau de cologne 3. Mm-hmm. Mais par contre, dans le parfum, vous retrouvez de l'alcool pur. Mm. Voilà.
Nous venons de présenter quelques entreprises traditionnelles françaises. Mais il y a eu de grands changements dans le milieu des entreprises. Dans les années 80, les jeunes ont commencé à s'intéresser à l'esprit d'entreprise parce que c'était une nécessité. Pourquoi?
L'esprit d'entreprise, chez les jeunes, existe certainement. Il existe parce que, d'abord, c'est une nécessité dans la mesure où on a observé une difficulté à rentrer sur le marché de l'emploi en ayant exactement l'emploi qui correspond à sa qualification. Donc, face à la question de accepter ou pas un emploi qui serait finalement une déqualification, de nombreux jeunes envisagent volontiers de créer une entreprise. Alors, l'entreprise en France a été considérée pendant longtemps comme étant finalement quelque chose d'un peu étrange. Il n'y avait pas de grand intérêt par rapport à la création d'entreprises et à la vie dans les entreprises. Et c'est quelque chose qui a complètement changé au cours des années 80, où les Français se sont de plus en plus intéressés à la vie des entreprises, aux entrepreneurs. Il y a un exemple frappant, c'est l'histoire de Bernard Tapie, qui était devenu donc une sorte de héros national à travers les reprises d'entreprises, il était appelé repreneur, en fait c'est un grand repreneur d'entreprise, donc quelqu'un de très médiatisé. Donc par rapport à ce phénomène-là, cette personne a illustré un peu ce qu'on appelle l'image même, en fait l'illustration même de la réussite dans les affaires. Alors cette réussite, cette volonté de réussir a été recherchée par de nombreux jeunes et maintenant les lois ont changé et on peut créer bien sûr des entreprises en étant son seul patron et salarié d'ailleurs. Et la loi s'est adaptée à ce besoin de créer donc son propre emploi, ce besoin aussi de créer de nouveaux services parce que les emplois nouveaux sont proposés surtout dans le secteur des tertiaires et des services.
Quel exemple est-ce que M. Harvey donne de l'esprit d'innovation des jeunes?
Et là, on a vu un élan important de jeunes, jeunes qui proposent donc des créations non seulement de services, mais aussi parfois tout simplement des produits qui sont destinés par la suite donc à l'industrie et repris par l'industrie. J'en veux pour exemple des jeunes qui récemment ont eu l'idée, parce qu'il va y avoir bientôt la mise en route de l'euro, hein, comme tout le monde le sait. Et ces jeunes-là ont eu une idée toute simple. En fait, ils se sont dit, voilà, pendant plusieurs années, en fait, certainement, les gens auront du mal à savoir exactement ce qu'ils dépensent en euros. Et alors, ils ont créé des petites calculettes spéciales qui permettent une conversion rapide, donc, de toutes les sommes dans les différentes monnaies européennes directement en euros. Alors, bon, c'est une idée simple, mais en tout cas, c'est une idée qui a été proposée par des jeunes qui n'avaient même pas fini leurs études, donc d'une école de commerce. Et cette idée a été reprise par un entrepreneur qui a été séduit par sa simplicité. Et c'est quelque chose qui va être mis en vente à grande échelle, et même parfois offert par des sociétés à leurs clients. Ces jeunes-là se lancent tout simplement donc maintenant dans la vie réellement professionnelle en n'ayant même pas fini leurs études. Donc voilà un exemple assez intéressant de l'intérêt pour les jeunes, des jeunes pour l'innovation par la mise en œuvre donc d'idées relativement simples mais très efficaces.
Alors les jeunes ont dû créer leurs propres emplois parce qu'il n'y avait pas assez de travail correspondant à leurs qualifications. En plus, la réussite de certains les a inspirés. Quelques jeunes ont profité du lancement de l'euro en inventant une calculette simple et pratique.
Il y a aussi des différences entre les entreprises, dues à la culture de chaque pays. Monsieur Harvey compare les façons de faire dans les entreprises finlandaises et françaises.
J'ai pu constater certaines choses, particulièrement dans le cadre du travail. J'ai, par exemple, observé que lorsque, avec des collaborateurs, on est amené à les contacter comme ça directement, et puis ils reçoivent un coup de fil. Hein, on les appelle au téléphone. Alors, on rentre dans le bureau. Ils répondent à la communication téléphonique. Mais ils finissent leur communication téléphonique et c'est qu'après qu'ils nous adressent la parole, et alors qu'ils sentent bien, par exemple, notre présence et qu'on a une demande urgente à faire passer. Alors que j'avais l'habitude, dans un milieu de travail en France, que les gens, par exemple, qui sont en train de parler au téléphone et puis ils voient arriver quelqu'un dans leur bureau, demandent à leur interlocuteur au téléphone d'attendre un tout petit peu et répondent donc à l'autre personne qui vient de rentrer dans leur bureau. Donc je pense qu'on préfère faire les choses dans l'ordre ici, alors qu'on a plutôt tendance en France d'être plutôt polychronique, hein, c'est-à-dire qu'on fait peut-être pas mal de choses parfois en même temps, mais bon, c'est un aspect comme ça que j'ai constaté. Et d'ailleurs, je l'ai repéré également dans la conversation, dans le dialogue, dans les échanges. Lorsqu'on discute à plusieurs, vous avez certainement constaté que quand vous êtes avec des Français, ils ont tendance à vous couper la parole. Vous discutez et il s'agit de couper la parole, de saisir le moment où on peut prendre la parole, même s'il y a trois personnes qui discutent, et alors on va saisir tout moment possible. Alors qu'avec des interlocuteurs finlandais, je m'aperçois que, en fait, on préfère finir ce qu'on a à dire pour faire une pause et donner cette pause et le signe qu'on donne la parole à l'autre.